Chers amis de Radio Grand Ciel, bonjour. Il nous arrive parfois d'être profondément déconcertés, surpris.
Ouais. Ouais, ça va bien se passer.
C'est quoi maintenant ?
C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé.
C'est curieux.
C'est en septembre que mon pays peut respirer.
Et comment en est-on arrivé là ?
Ben, je crois qu'on le voit tous dans nos vies quotidiennes, Paolo. C'est par l'utilisation massive des machines dans tous les domaines. Agricoles, industriels, des transports, de la maison, des habitations, des services. Il n'y a pratiquement plus rien aujourd'hui qui ne soit pas mécanisé, électrifié, informatisé, même robotisé. Et cela est un grand progrès, car il n'y a presque plus de travail forcé d'animaux, ou pire, d'humains. Alors, croissance de la population, du bien-être, de la santé, de l'espérance de vie, abolition de l'esclavage, reforestation, renaissance des baleines, le résultat d'une même cause, l'utilisation massive des énergies, fossiles en particulier, je crois qu'on peut légitimement poser la question, oui.
En même temps, la grande question de la recherche de l'immortalité grâce à la science est très souvent remise sur le tapis. Et même si ça reste utopique, c'est une idée qui bouleverserait du coup nos 6 émissions sur le temps. Mince alors.
Non, je crois pas du tout à cette possibilité, entre guillemets, transhumaniste. Je n'y crois pas parce que je ne pense pas que la mort s'oppose à la vie. Je pense que la mort s'oppose à la naissance. Hein. Donc, vous voyez, il y a comme une sorte de moment de passage où on devient vivant, parce qu'un jour on naît, un jour on meurt, et qui a probablement une continuité. Où est-ce que j'étais avant que je sois conçu, et où est-ce que je vais être une fois que je serai mort? Très honnêtement, je sais pas quoi vous répondre là-dessus, j'ai pas voilà, mais j'ai l'intime conviction de cette continuité de l'être au fil du temps.
Il faut voir aussi quand les éléphants, quand un des leurs meurt, quand on parle des cimetières des éléphants,
oui.
Mais c'est extraordinaire parce qu'il y a un respect, ils viennent avec leur trompe, ils caressent le lieu, les alentours ou le cadavre de leur...
Ils ont un rite funéraire.
Ah oui, vraiment.
Ce sont
vraiment des animaux extraordinaires. Et là, l'homme, devant de telles scènes, l'homme se sent vraiment tout petit et très humble parce que là, notre domination, notre supériorité, notre sentiment comme ça de supériorité est quand même un petit peu mis à mal. Hein, voilà.
C'est comme la vie. Et c'est comme ce qu'on vit un petit peu en ce moment, où on est rattrapé par beaucoup de choses. Et je dois dire que, ben voilà, comment on se voit souvent, j'allais dire de 20 à 50 ans, et peut-être plus, etc., tout feu, tout flamme, ça ne finira jamais. Et peut-être que ça finit un jour ou l'autre.
La mort chez l'homme n'est pas seulement l'après-vie, le moment où tout s'arrête. Elle est aussi, c'est ce que Freud n'aura de cesse de montrer, au cœur de la vie, comme une force de déliaison, le retour à un état absolu d'immobilité. Si la mort finale n'est rien, la mort qui travaille en secret, en sourdine, sur l'autre face de la même monnaie, l'autre face c'est l'éros, le mouvement qui lie, et l'essentiel d'un nouable indémêlable. Les deux fils se mêlent et se confondent.
Et puis alors, quand on enregistre le chant d'un oiseau, très très vite, on s'aperçoit que derrière, il y a du vent, qu'il y a des rivières, qu'il y a d'autres animaux, qu'il y a des insectes, qu'il y a des éléments naturels, et que tout ça fait partie d'un tout, fait partie d'un paysage, fait partie de la grande symphonie du vivant.
Et c'est source de vie.
Allons-y, youpi, puis on verra bien.